Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission consacrée à la cuisine, à l'alimentation, à la table comme fait culturel majeur et comme enjeu global. Une émission en partenariat avec la plateforme des cultures du goût, Alimentation Générale. Bonjour Pierre.
Bonjour Caroline.
Pierre Hiverna, chaque dimanche, nous propose en fin d'émission la cerise sur le gâteau. Aujourd'hui,
eh bien, on va parler de la gastronomie des herbes.
Ah bah ça tombe très bien avec notre plat du jour, vous allez vite comprendre pourquoi. Bonjour Natacha Triou.
Bonjour Caroline.
Vous nous proposez la Madeleine de, le souvenir gustatif d'une personnalité. Avec qui aujourd'hui?
Avec le peintre Gérard Garouste.
Eh bien, à tout à l'heure, 12h15. Et pour cette 30e des bonnes choses, un plat du jour festif. Puisque tandis qu'à leurs œuvres perverses, les hommes courent haletants, Mars qui rit malgré les averses, prépare en secret le printemps, nous dit le poète Théophile Gautier. Alors, célébrons l'arrivée du printemps avec une fête qui est l'une des plus anciennes de l'humanité et que quelques 300 millions de personnes célèbrent à travers le monde aujourd'hui. Cette fête a pour nom Nowruz. Elle est inscrite au patrimoine de l'UNESCO depuis 2009. Elle a lieu autour du 20 mars. Le 21 mars est même reconnue par l'ONU Journée internationale du Nowruz depuis 2010. Elle correspond au nouvel an iranien et elle a aussi son père Noël, le Hadji Firouz, sorte de fou du roi vêtu de rouge au visage noirci, qui invite les gens à se réjouir en musique.
ارباب خودم سر تو بالا کن
توی هر دو چشم من ایشالله
ارباب خودم به من نگاه کن ارباب خودم بزبز قندیم ارباب خودم چرا نمیخندیم ارباب خودم گلی به جماله از کجا بگم وصف کماله.
Bonjour à vous, Salvatore Donofrio.
Bonjour.
Bienvenue. Vous êtes anthropologue, vous êtes professeur à l'Université de Palerme, membre du laboratoire d'anthropologie sociale du Collège de France, auteur d'un livre qui nous a bien servi pour cette émission, Le matin des dieux du Nowruz persan aux Pâques chrétiennes, un livre publié par les éditions Mimesis. Et avec vous autour de la table aujourd'hui, le chef du restaurant iranien Mazeh à Paris, Sam Tavassoli. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à vous. Alors Salvatore, on parle du Nowruz, on dit que c'est le nouvel an iranien, mais ça veut surtout dire nouveau jour. C'est quoi? C'est une renaissance? C'est l'arrivée du printemps, d'une certaine façon.
Oui, c'est le premier jour du premier mois Farvardin du calendrier iranien, mais n'intéresse pas que les Iraniens.
Oui, c'est pas seulement une fête iranienne.
Aussi tous les autres pays qui faisaient autrefois partie de l'Empire perse. Donc,
C'est célébré par la communauté kurde en Irak, en Syrie, en Turquie, en Afghanistan.
300 millions de personnes. Et je voudrais saisir l'occasion tout d'abord pour adresser mes meilleurs vœux de bonne année, comme on dit en iranien, Nowruz Khojaste, hein, à tous les amis que j'ai connus pendant mon enquête sur Nowruz qui était faite à Paris auprès de la communauté iranienne et notamment chez les Zoroastriens. Parce qu'au cœur de l'Iran, il y a la religion zoroastrienne.
Et pourtant, Nowruz, c'est une fête païenne.
Alors, sur les origines de Nowruz...
C'est flou, manifestement.
On sait que Nowruz appartient au fond culturel de l'Iran, de l'époque sassanide et même achéménide encore avant. On sait aussi que le chiffre 7 l'emporte du point de vue symbolique. Mais les origines sont floues parce que ni l'Avesta, le livre sacré, ni d'autres livres sacrés, ni la littérature persane ancienne n'évoque jamais le sabzé. Alors que, et aussi les Parsis qui ont trouvé abri en Inde après la conquête arabo-musulmane et jusqu'à l'époque récente, aussi les Parsis ne connaissent pas le sabzé. Alors qu'ils auraient dû garder un trait culturel ce qui arrive souvent dans les diasporas.
Est-ce que la cuisine est un élément important dans cette fête du Nowruz qui dure 12 ou 13 jours
Une quarantaine de jours, le premier geste fait par les femmes, c'est de planter, de semer des graines dont vont sortir les pousses. À un moment donné, ça dure de 2 à 3 semaines. Et ça correspond aussi au moment où, partout en Iran, on secoue comme on dit, les maisons, parce qu'on fait les grands nettoyages du printemps.
C'est ça, avec beaucoup de préparatifs.
Voilà, donc c'est une quarantaine de jours du moment où on sème les pousses, les graines de blé, d'orge, de légumineuses, de lentilles, au moment où ces pousses qui commencent à flétrir seront jetées dans l'eau. C'est ce qu'on retrouve, on en parlera dans le Moyen-Âge juif, on retrouve encore aujourd'hui en Sardaigne. La question, ce n'est pas de trouver, d'élaborer une hypothèse diffusionniste pour pouvoir comprendre comment se fait-il que ces pousses ont voyagé, voilà, de la Perse et même de l'Inde jusqu'à la Sardaigne. La question est de savoir quel est le dispositif symbolique que beaucoup de peuples au monde mettent en place pour aller au-delà de l'année qui s'achève.
Donc on a les préparatifs pendant quelques jours avec ce grand nettoyage de printemps, avec ces semences qui sont plantées, avec l'achat de fleurs aussi des jacinthes, des tulipes. Et puis le début des célébrations est annoncé au son du tambour du Hadji Firouz qu'on entendait au début de cette émission. Sam Tavazoli, vous avez donc, vous, je suppose, célébré le Nowruz comme il se doit il y a quelques jours. Hein. Ça, c'était mercredi soir.
Moi et tous les
précisément à 23h.
Oui, c'est cela en fait. Donc les gens font...
Donc la cuisine est très importante.
Oui, alors en plus cette année on a de la chance car c'est tombé à 23h. Donc en tout cas en France on a pu le fêter comme il se doit. Mais donc comme vous le savez, l'heure change tous les ans parce que c'est à l'heure du passage au printemps. Donc parfois c'est 3h du matin. Enfin vraiment, donc là 23h c'était une très bonne heure. Donc effectivement, oui, tout le monde a fait les préparatifs, notamment en cuisine, préparer son plat donc du Nowruz qui est le riz aux herbes et le poisson pour pouvoir dîner et être prêt autour de la table à 23h, ce qu'on a fait donc mercredi.
Alors il y a évidemment des plats traditionnels, oui, et des plats qui sont toujours les mêmes, qui sont des rituels, hein, oui, bien entendu. Et vous avez apporté quelques-uns dont on parlera tout à l'heure, oui, Sam Tavazoli, mais c'est aussi, Salvatore D'Onofrio, le statut de la nourriture, exact, qui est très particulier. Parce que je crois que ce qu'on consomme aussi pendant Nowruz, il y a par exemple un ensemble de fruits secs qu'on appelle,
exactement,
l'adjil et un plat de pâtes qu'on appelle le hachrechte.
Justement. Vous savez, les anthropologues, depuis Claude Lévi-Strauss, ont l'habitude de considérer, de penser que la nourriture n'est pas seulement bonne à manger. Elle est aussi bonne à penser. Et c'est en travaillant sur Nowruz et les mets qui sont consommés à l'occasion de ces 40 jours de Nowruz, c'est en travaillant sur Nowruz et les aliments de Nowruz que j'ai découvert que les nourritures sont bonnes aussi à parler et à agir.
À agir aussi.
Oui, à agir. Parce que c'est des dispositifs, c'est des objets relationnels. Et ça correspond en quelque sorte aux trois principes affirmés par les Zoroastriens, de la bonne parole, de la bonne pensée et de la bonne action auxquels il faut uniformer les comportements. Alors, ces deux nourritures que vous évoquez
les fruits
sont
secs
extraordinairement intéressantes du point de vue de la compréhension possible, hein, de ce qui est au fond de la fête de Nowruz. L'agile que vous avez évoqué, un ensemble de fruits secs et de semences. On le voit déjà apparaître lors de Chachambé-Souris, il y a quelques jours, le mardi.
Le dernier mercredi de l'année où on mange des noix.
En réalité, c'est,
ouais,
le mardi.
Ouais, c'est le mardi.
Ah,
c'est
le mardi soir. Ouais. Parce que toutes les fêtes, quand on fête un jour, on commence
la veille.
La veille, exactement. Comme le grand souper de Noël qui est fait le 24 plutôt que le 25. Et alors, à la fin, quand on saute par-dessus le feu, à la fin, tout le monde consomme, offre des fruits secs, l'agile. Agile que l'on retrouve, par exemple, on retrouve au moment où on empoigne, par exemple, le Mobed, qui est le prêtre zoroastrien, qui organise, dresse une table un peu différente de celle des Iraniens musulmans. À la fin de la cérémonie, fait une bénédiction de l'agile, en quatre points de l'agil, en essayant ainsi de bénir les quatre parties du monde, les quatre points cardinaux au sein desquels s'inscrit l'existence humaine. Pour moi, ça n'a pas été une surprise de retrouver ce geste parmi les Juifs contemporains pour Yom Kippour, d'une fête pour Sukkot, parce que le septième jour, ils font sept fois le tour de la synagogue ou de l'autel. Et il y a quelque chose qui rappelle cette bénédiction faite par le Mobed zoroastrien. Voyez-vous comment on retrouve avec la myrte. Le rabbin et le Mobed font cette bénédiction avec une branche de myrte.
Et vous parlez du chiffre 7 et vous disiez, Salvatore D'Onofrio, que ce 7 est très important, en l'occurrence pour le Nowruz. La tradition veut que l'on dresse une table sur laquelle sont placés 7 éléments dont la lettre commence par S dans l'alphabet persan. Et ça s'appelle, Sam Tavassoli, les Haftsin.
Oui, les Haftsin, exactement.
Vous les connaissez par cœur, ces 7 éléments? Alors, vous les avez dressés dans votre restaurant,
oui,
le Mazé?
Oui, effectivement. Alors, je dois vous avouer que c'est quand même tous les ans ma femme qui s'en occupe. Hein. Mais
Ça va, faut changer ça.
Oui, c'est vrai. Mais bon, elle le fait tellement plus joliment que moi. Moi, je m'occupe de la cuisine. Je vais cuisiner et elle s'occupe de la décoration. Mais oui, effectivement, donc on a la pomme qui est le cib, on a le somac qui est une sorte de petite épice qu'on met sur les brochettes, donc qui se dit le somor. On a le sombol, on a les fleurs.
Il y a fleurs de hyacinthe.
Voilà, ouais, il y a le séqué en fait, donc qui sont les pièces d'or.
Les pièces de monnaie. Alors là, exactement. Ça se mange pas. Hein.
Oui, ça se mange pas. Non, effectivement.
Mais ça fait partie des ingrédients à disposer sur la table.
Effectivement, on a le.
Alors, vinaigre aussi.
Ouais, c'est ça, le séqué qui est le vinaigre. Puis
le cire, qui est l'ail.
Ouais, cire.
Je les ai sous les yeux, je triche un peu.
C'est très gentil, merci, vous m'aidez.
Je vous aide.
Ça me rend service, voilà.
Et puis, bien sûr.
Il y a surtout le samanou.
Ouais, le samanou, qui est une crème.
Qui est du point de vue symbolique et d'une importance extraordinaire. Pourquoi? Parce que le samanou est issu des jeunes germes de blé, les mêmes qui donnent lieu au sabzé, mais qui sont coupés, centrifugés, et dont le jus est utilisé dans des grands chaudrons et où il est fait cuire ce jus de vin entre 20 et 22 heures pour obtenir cette crème douce, le samanou, qui est l'aliment, je dirais, du point de vue symbolique le plus important.
Et d'ailleurs, il existe même une parodie musicale du samanou que tous les Iraniens connaissent. On va se la mettre dans l'oreille. Ah. Samanou, aïe samanou.
Manoto Production. سی صد و نود و دو بچه ها همه سمنو بازن افتخار سال نو فقط عشق فقط عشق
Voilà, le samanou. Mais il me semble quand même, mais peut-être que je vous ai mal entendu, Sam Tavassoli, que vous n'avez pas donné finalement l'ingrédient le plus important dont nous parle Salvatore D'Onofrio, qui est le sabzé. Le sabzé, c'est donc ces germes de blé, ces pousses de blé, d'orge, de lentilles et de graines qui constituent la base du repas du Nowruz.
Oui, effectivement. D'ailleurs, nous, Iraniens, on a tous dans notre esprit nos mères qui très jeunes, mettaient ce blé justement à pousser. Hein. Bon, on peut aussi les acheter pour ceux qui n'ont pas le temps, mais c'est vrai que c'est pour ça que
des entrepreneurs ont l'acheter.
Exactement, effectivement.
Il y a des magasins iraniens.
Et c'est vrai que c'est comme vous disiez, Nowruz, effectivement, c'est vraiment bien. Ça commence bien avant, en fait, quand les préparatifs, même ne serait-ce que quand on met ce blé, on le voit pousser, on voit les herbes pousser qui doivent être prêtes à point pour le jour, à l'heure où ça passe.
Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement le sabzé marque le début de Nowruz, mais il en marque aussi la fin de Nowruz. Pourquoi? Parce que au moment du 6 d'Abedar, c'est-à-dire
le 13e jour,
qui suit Nowruz, où tout le monde doit faire un pique-nique en plein air, quel est le dernier geste qui correspond au premier geste du cycle festivalier? C'est de prendre le sabzé et de le jeter dans l'eau.
Mais alors pourquoi on le jette à l'eau?
Alors parce que il y a une nature ambivalente de ce sabzé. D'une part, on le jette à l'eau pour se débarrasser de tous les maux, hein, qui se sont cumulés pendant l'année. De l'autre, les jeunes filles surtout font confiance au sabzé parce que il lie de brins d'herbe du sabzé pour souhaiter un mariage dans l'année. Ils disent même et que l'année prochaine, je suis avec un enfant dans mes bras en ayant fait ce rituel magique.
Harouz etan Nowruz, Nowruz etan Pirouz.
Allez, c'est l'heure de la Madeleine. On va vous retrouver d'ici quelques minutes, Sam Tavassoli, Salvatore D'Onofrio, pour continuer à parler de ce Nowruz. Et on parlera de la cuisine iranienne que nous fait merveilleusement Sam Tavassoli, bien évidemment. Mais donc, c'est l'heure de la Madeleine avec Natacha Triou. Natacha, vous nous parliez d'un peintre tout à l'heure.
De Gérard Garousse, qui est une figure majeure de la peinture française. Il est peintre, mais il est aussi sculpteur et graveur. Et depuis les années 70, il peint de grandes toiles figuratives, aux atmosphères fantastiques, avec des bleus profonds, marrons, des rouges vifs. Il sera exposé à partir du 26 mars sur l'esplanade de la Défense.
À Paris ?
À Paris. Et il m'a reçu dans son atelier à Paris. Il m'avait prévenu, sa madeleine à lui est singulière.
Il y a une chose pour moi qui est évidente, c'est manger des oignons. Et particulièrement au petit déjeuner, ce qui fait absolument rigoler tout le monde, parce que ce que je fais, c'est j'aime bien les gros oignons, et j'adore l'étaler sur du fromage de chèvre, avec une bonne tranche d'oignon et du piment, sur du toast grillé, ça fait un peu bizarre, mais ça s'explique très bien, c'est parce que dans mon enfance, je me retrouvais chez un oncle et une tante en Bourgogne, qui étaient des gens très simples, et mon oncle... Son père était bûcheron, lui-même était tailleur de pierre, maçon, enfin quelqu'un de brut de coffrage, comme on peut dire. Et lui, au petit déjeuner, il mangeait un oignon. Et moi, enfant, j'étais fasciné de voir il mangeait un oignon avec du sel, comme ça, un morceau de pain. Il buvait son café et il partait travailler. Et je trouvais ça incroyable, mais quand j'étais petit, je mangeais pas d'oignons, vraiment, je trouvais ça pas possible. Tout ce qu'il mangeait venait de son potager. Donc, il faisait pas la cuisine, mais il allait chercher deux tomates dans son potager, et il les mangeait crues, quoi, vraiment, ses oignons, tout, ses salades, il se la lavait, il se la mangeait. C'était un personnage un peu rustique, vraiment. Mais j'adorais ça, vraiment, j'adorais ça.
Je n'aime pas les œufs au bacon, ni le missionnaire au courbouillon, mais moi, j'aime les oignons.
J'en mangeais bien tout le temps, mais vraiment, quand je sais que c'est une journée où j'ai des rendez-vous dans Paris ou autre, bon, là vraiment, par politesse, je ne mange pas d'oignons. Et vraiment, chaque fois que je mange un oignon petit déjeuner, je vois mon oncle, et c'était une personne que j'adorais, parce qu'il faisait de l'art brut. Je crois que si je suis artiste, c'est grâce à lui, donc c'est vraiment une petite complicité comme celle que j'ai avec lui.
Et vous, Sam Tavassoli, vous vous souvenez des fêtes de l'enfance avec des parfums, des saveurs, je sais pas, des pistaches, des écorces d'orange confit, des choses comme ça?
C'est vrai que pour Nowruz particulièrement, mais la cuisine reste quand même, chez les Iraniens, un élément extrêmement important toute l'année. Donc oui, effectivement, entre le safran, les pistaches, les herbes fraîches, tous ces éléments. D'ailleurs, les oignons crus aussi, beaucoup.
Ah oui, aussi, les oignons crus.
C'est vrai que c'était, pour moi,
et au petit déjeuner aussi.
Non, pas au petit déjeuner,
ah bon,
voilà. Mais par contre, c'est vrai que
tenter,
souvent,
manifestement.
Avec le chelo kabab, le plat national, les brochettes et le riz, en Iran, on vous amène un bel oignon cru coupé en quatre et vous le croquez dedans et peu importe s'il y a des rendez-vous derrière, je peux vous le dire.
C'est voilà, le bateau de nos frigos, chez vous aussi.
Ah oui.
Les oignons aussi?
On ne peut pas s'en passer.
Ah oui.
La Sicile, je suis sicilien, la Sicile paysanne, qu'on connaissait un petit déjeuner avec du pain, de l'oignon, quelques olives, un petit morceau de fromage. Néanmoins, l'oignon n'était pas toute seule.
Et ce qui est intéressant, justement, quand on lit votre ouvrage, Salvatore D'Onofrio, Le matin des dieux du Nowruz persan aux Pâques chrétiennes, c'est que justement, alors c'est pas des oignons nécessairement qu'on retrouve, mais cette idée des pousses que l'on retrouve, donc de l'Iran musulman à la Sicile catholique. Et vous parlez aussi de la Provence, le 4 décembre, jour de la Sainte-Barbe, ou encore au sud de l'Italie, le jeudi saint qui précède Pâques. On retrouve cette symbolique des pousses dans toutes ces contrées.
Oui, oui, c'est le... On plante, on
sème. C'est comme l'oignon, ça se diffuse partout.
Le 4 décembre, partout en Provence, on sème le blé de la Sainte-Barbe, comme on l'appelle, que l'on placera sur la table de la veille du souper de Noël, la veille de Noël, et qu'on passera après dans la crèche. Mais figurez-vous qu'en Sardaigne, il y a une petite ville, la seule petite ville en Sardaigne, où les femmes en beau costume sarde portent sur la tête, comme les indiennes, le sabzé, c'est ce qu'elles appellent nenniri,
et
à la fin de ce parcours cérémonial, ils le jettent à la mer.
Ouais.
Exactement.
Ça, de toute façon, on le jette toujours à l'eau.
Et anciennement, je termine, anciennement, les juifs, parce qu'il y a des documents rabbiniques du Moyen-Âge français, où on raconte qu'on faisait autant de sabzé que d'enfants il y avait dans la maison, qui faisait à un moment donné tourner sur la tête ces sabzé et les jetait à la rivière.
Voilà. Ça se retrouve absolument partout. Sam Tavassoli, justement, je ne sais pas s'il y a du sabzé sous nos yeux. Vous nous avez apporté trois barquettes avec ce que vous nous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire le repas familial, il est composé avant tout de poisson, de riz et de sabzé.
Exactement. En fait, vraiment, on va dire qu'il faut, durant cette période de Nowruz, au moins une fois manger ce repas. Pour les Iraniens. C'est-à-dire qu'ils vont.
Pour être en bonne santé. Tout a une symbolique, là.
Oui, mais c'est surtout par rapport aussi à la culture, hein. Je veux dire, il faut passer ce que nous ont inculqué nos parents. On a toujours et on sait qu'il faut qu'on mange ce plat-là. C'est surtout pour être en respect vis-à-vis de Nowruz, quoi, surtout. Donc oui, effectivement.
C'est une tradition.
Exactement. Après, sauf si, bien entendu, on n'aime pas le poisson. Ça, c'est autre chose.
Mais c'est ça, c'est une symbolique. Salvatore D'Onofrio.
Comme Caroline, c'est plutôt un plat symbolique parce qu'il est très simple. Ouais. Si on le compare, par exemple, l'âche rejeté qu'on avait évoqué avant, qui est un plat très compliqué à préparer, mais qui a lui aussi un côté symbolique très poussé. Pourquoi ? Parce que je fais référence à des enquêtes que j'ai fait avec des gens de Kerman, qui m'ont dit que ce plat représente les fils de la vie. Les fils de la vie. Rejeté zendeji. Comme les fils qui servent à tisser la chaîne et la trame de la toile. Or, contrairement aux autres potages que l'on peut partager avec des voisins, là, on ne le fait pas sortir à l'extérieur parce que cela reviendrait à donner les fils de sa propre vie aux autres.
Oui, parce que c'est aussi quelque chose qu'on n'a pas dit tout à l'heure. C'est sept ingrédients que l'on dispose sur la table ont chacun une symbolique particulière. Abondance, santé, renaissance, prospérité, amour, fertilité et patience. Donc, vous voyez, c'est un ensemble de choses qu'on retrouve sur la table.
Et si je peux ajouter, chez les Zoroastriens, parce que c'est le fond de la culture iranienne, y compris actuelle, chez les Zoroastriens, les sept choses qu'on place sur la table correspondent à autant qualités de Dieu. C'est-à-dire aux sept divinités du panthéon zoroastrien. Voici une complication qui explique néanmoins pas mal de choses.
بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم. فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. Ça veut dire allons faisons sortir des fleurs, versons le vin délicieux, crevons le plafond de l'univers, commençons un nouveau destin.
Alors, revenons à ces barquettes que vous nous avez apportées, Sam Tavassoli.
Donc, on peut les manger en général ensemble, mais sinon, on peut aussi manger d'abord, pour commencer, donc ce qu'on appelle le koukou sabzi. Donc, le koukou sabzi, c'est une galette ou une omelette aux herbes, mais qui est composée donc de 90% d'herbes et de 10% d'œufs. Donc, c'est vraiment une omelette inversée. Donc, c'est pour ça qu'on peut dire aussi que c'est une petite galette. Et on peut aussi y ajouter un peu d'épines vinettes, un ingrédient extrêmement connu en Iran, ces petits raisins rouges acidulés pour apporter justement cette touche d'acide. Et donc on peut le faire comme, c'est comme un gâteau en fait, on peut le faire comme un petit gâteau ou alors des petites portions. Donc on peut commencer par manger ça et après le plat principal c'est le fameux riz aux herbes, le sabzi polomoi, riz aux herbes avec du poisson. Alors normalement nous on le mange avec du poisson blanc, le moi sefid d'ailleurs qu'on l'appelle comme ça en Iran, mais aussi on peut le manger aussi avec du poisson fumé ou n'importe quel autre poisson. Et d'ailleurs pour vous dire, en Iran pendant la période de Nowruz, c'est vraiment incroyable parce que quand on va sur les marchés, il faut vraiment le faire une fois dans sa vie, il y a tous les poissons encore vivants sur l'étal. Ça veut dire que quand on va dans les marchés, on est imprégné par cette ambiance de Nowruz qui, entre parenthèses, est vraiment un moment d'évasion pour les Iraniens. Donc c'est vrai que cette période-là, c'est vraiment incroyable parce que c'est leur période à eux où c'est Nowruz, tout le monde est festif, peu importe, après on fait abstraction de tout ce qui peut se passer autour. Et donc c'est vrai que c'est un moment, notamment pour ça, extrêmement important pour les Iraniens.
Et dans les spécificités de la cuisine iranienne, Sam Tavassoli, on retrouve ces herbes, de toute façon. Oui. Et puis le riz, beaucoup, le riz est très important, le riz basmati en particulier.
Alors déjà pour revenir sur l'herbe, je suis né en France, de parents iraniens, donc je suis ancré par cette culture iranienne, mais je suis quand même grandi en France. Je vais parler de ma femme qui est donc, elle a grandi en Iran et qui est venue en France. Ma femme ne peut pas manger un repas sans une assiette d'herbes fraîches à côté. Ça veut dire que parfois je la soupçonne même de manger les herbes pour son plat. Enfin, c'est les herbes qu'elle veut manger avant le plat. Peu importe ce qu'on lui donne, elle veut ses herbes. Et aussi pour le riz, oui, effectivement. En Iran, en fait, en ce moment, c'est la mode, il faut manger du riz iranien, du riz qui vient d'Iran, mais qui est du riz basmati, qui est un tout petit peu plus petit, mais beaucoup plus parfumé. Mais oui, ici en France, c'est du riz basmati d'Inde qu'on utilise notamment.
On va faire plaisir à votre femme, si elle nous écoute, aussi. Eh bien, nous allons continuer cette émission et la terminer d'ailleurs avec la chronique de Pierre Hiverna. La cerise sur le gâteau, ça tombe très bien. Il va nous parler des herbes, précisément.
Mmh.
La gastronomie des herbes, voilà votre sujet du jour.
Eh bien oui, après l'omelette aux herbes, le riz aux herbes et votre femme qui mange quasiment que des herbes, c'est effectivement quelque chose qui est simple et pas trop onéreux et que tout le monde peut l'utiliser. Et bien sûr, il y a des maîtres en la matière du côté des chefs aussi. Et à commencer par Michel Brasse et son célèbre gargouillou, toujours à la carte sous la haute autorité de son fils Sébastien. Pour faire un gargouillou, il faut bien le reconnaître, c'est un peu compliqué. Imaginez-vous que tous les matins vers 7 heures, un étrange balai d'une dizaine de cuisiniers vêtus de blanc et armés de petits ciseaux partent à la conquête d'un jardin extraordinaire qui a pour première particularité d'être perché à 1000 mètres d'altitude à quelques encablures de l'Aguiole dans l'Aveyron. Ils vont cueillir là, tiens, par exemple, quelque chose que nombre de nos auditeurs connaissent, de l'oseille. Oui, mais si vous demandez à Sébastien où on la trouve dans le jardin, il vous répondra d'abord « Laquelle veux-tu la cétosella, l'argentée, l'oseille de Belleville, de Guinée, l'oseille laitue, de la Montana, de la rubra, de la sanguine, du scutatus ou de l'oseille vierge ?» Et vous voilà donc, sans avoir commencé à cuisiner, avec 10 variations possibles d'un plat. Il faut dire que dans la famille Brasse, ils ont pris une sale habitude. Dès qu'ils partent en voyage, ils ramènent des graines jusqu'à maîtriser désormais plus de 100 variétés de plantes. Citons également dans les maîtres S. Herbes, Armand Arnal, qui dans son restaurant La Chassagnette en pleine Camargue, compose un mythique velouté d'herbes, également à la carte depuis de nombreuses années, et qui est une pure merveille de dégustation du paysage en temps réel. On passe aussi à Jean Sulpice, qui était votre invité, Caroline, en décembre dernier, et qui lui aussi est particulièrement sensible aux herbes qui poussent en altitude à proximité de son auberge du Père Bise, et qui vous disait joliment « Une ortie qui me piquait autrefois, je la cuisine aujourd'hui ».
Je vais vous embêter, mais c'est vrai qu'une chose est d'être un professionnel et de maîtriser cette multitude d'herbes comme les chefs que vous évoquez, mais une autre est de se retrouver au marché avec un choix relativement limité quand même.
C'est vrai Caroline, et particulièrement pour les citadins, encore que deux ouvrages parus ces derniers jours pourraient vous amener à reconsidérer la chose pour peu que vous ayez envie d'explorer les espaces verts, y compris en Île-de-France. Le premier livre porte un très joli titre, « Le chemin des herbes ». Paru aux éditions Ulmer, il vous amène à identifier 80 plantes sauvages, la plupart comestibles et sinon médicinales. On vous prend par la main en parcours de reconnaissance, on vous raconte l'histoire, on vous évite les confusions et les illustrations d'un certain Jackie Jousson, éminent membre de la Société française d'illustration botanique, sont absolument splendides et ça peut aussi se lire sans aucun objectif culinaire. Le deuxième, paru chez Larousse, voit plus grand avec ce titre « Faites pousser et déguster vos protéines ». Mais pas de panique, si vous n'avez ni balcon ni jardin, les auteurs François Couplan et Xavier Mathias vous apprennent aussi à trouver dans la nature la plus banale bardane, souchet comestible ou égopode. Mais la vraie force de ce livre, ce sont les recettes, où toutes ces herbes à portée de balade quittent leur rôle d'accessoire pour être au centre d'un chaussons au cimbre, de beignets de jeunes pousses d'armoise ou, tiens, d'un aligot de kénopodes blanc que même notre Aveyronnais national Sébastien Brasse n'a pas encore à sa carte.
Ah mais vous savez quoi, il se trouve que François Couplan sera notre invité dans les semaines à venir. Merci beaucoup à vous Pierre Hiverna, votre chronique est à retrouver sur le site des Bonnes Choses et sur le site d'Alimentation Générale. Un grand merci à vous Sam Tavassoli du restaurant Mazet à Paris, rue des Entrepreneurs, et un grand merci à vous également Salvatore D'Onofrio, je rappelle le titre de ce livre passionnant, Le matin des dieux, du Nowruz persan aux Pâques chrétiennes, édité chez Némésis. Merci beaucoup.
Merci Caroline.
Les bonnes choses se poursuivent en réécouter en podcast sur le site de France Culture. Toute l'équipe, Stéphanie Villeneuve, Aïgoui Chechkoyan, Natacha Triou, Jean-Christophe Francis et notre technicienne du jour, Élise Le, vous souhaite un excellent dimanche à l'écoute de France Culture. Dans un instant, c'est le journal, suivi de Signes des temps par Marc Mitzmann.